Une œuvre, c'est samedi, 16h, c'est tout de suite. Lou Reed, 1942-2013. Aujourd'hui, Une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui voulait aller du côté sauvage, qui rêvait de jours parfaits et qui attendait son dealer avec 26$ au creux de la main. De celui qui savait que pour devenir une femme, il suffit de se raser les jambes. Celui qui a connu Andy Warhol et a fait partie du groupe qui a imprimé pour toujours une banane au fond de nos rétines. Sur les photos, il a 1000 visages, mais toujours la commissure des lèvres vers le bas, dans un rictus triste et distant. Il est tour à tour peroxydé, auréolé de boucles noires ou les yeux fardés. Il a aussi parfois des bandanas rouges et un faux air de petite frappe américaine. Androgyne souvent, féminin quand il veut, punk quand il faut, il est très glamour aux côtés de Bowie et plus perfecto vinyle avec Iggy. Au pire des années 80, il porte fièrement un mulet que les footballeurs allemands n'auraient pas renié. Plus tard, devenu miraculeusement vieux, les cheveux gris, il pose tranquille dans les bras de Laurie Anderson. Sur une autre photo, affublé d'un bonnet improbable, il embrasse son chien et on dirait une vieille femme. Lou Reed a eu toutes les vies qu'on veut bien lui prêter. Vous pourrez en découvrir une dans l'exposition consacrée au Velvet Underground qui vient de commencer à la Philharmonie de Paris. Lou Reed, un documentaire d'Alexandre Breton réalisé par Céline Terce.
The Velvet Underground. Here is an incredible book. It will shock and amaze you. But as a documentary on the sexual corruption of our age, it is a must for every thinking adult.
Hello. Sorry we were late, but we were just tuning.
Why do you think your music is so popular, Lou?
I didn't know it was popular.
Lou, do you think it's the decadent society we're living in?
No.
Would you describe yourself as a decadent person?
No.
How would you describe yourself?
Average.
Do you like meeting people, talking to people?
Some.
Do you like talking to us?
I don't know you.
Do you like press interviews in general?
No.
Where do you spend your money?
On drugs.
Syllabes du chaos. Warren Ellis.
I remember Lou Reed came to Australia in 1974. It was on TV. He gave the most articulate, literate interviews, and he was
Je me souviens de la venue de Lou Reed en Australie, en 1974. Il était à la télévision et il avait accordé une interview des plus claires et des plus éclairantes. Le voir à l'écran, c'était comme de voir Elvis. Lou Reed donnait l'impression que le diable en personne avait débarqué en Australie. Sur scène, il simulait des shoots, c'était incroyable. Un véritable raz-de-marée. Lou Reed effectuait sa tournée avec AC/DC en première partie, et lorsqu'il jouait cette version de Héroïne, avec ses cheveux décolorés et ses lunettes noires, il faisait tout un tas de choses, comme se garrotter le bras avec le fil du micro. Des choses qui étaient de loin ce que j'avais vu de plus violent. C'était la même période que Bowie a débarqué en Australie. Là-bas, à l'époque, on écoutait surtout cette espèce de boogie rock. Alors quand soudain ces figures sont apparues, elles ont fait l'effet de la foudre sur les esprits éteints.
Héroïne. Je ne sais pas où je vais. Je vais tenter le royaume. quand je me plante une seringue dans la veine, je me sens comme le fils de Jésus. Quand le sang commence à couler, quand je me rapproche de la mort, vous pouvez tous aller vous faire foutre. J'aurais voulu naître il y a 1000 ans. Héroïne, sois ma mort, ma femme et ma vie. Merci à Dieu que je sois comme mort.
I'd sailed the darkened seas on a great big clipper ship, going from this land here to that. I'd put on a sailor's suit and cap.
Alors Lou Reed a 20 ans en 1962, dans un contexte particulier qui est celui de l'explosion du mouvement rock, rock'n'roll, qui commence en 1956.
Bruno Bloom.
Et il y a la Beat Generation. Et c'est la naissance de l'anticonformisme américain et de tout le mouvement qu'on appellera ensuite beatnik, c'est-à-dire la contre-culture des années 60. Et il est un produit de ce mouvement littéraire radical qui parle de drogue dure. Il faut rappeler qu'on est dans les années Eisenhower, donc c'est un général de l'armée, le président qui est réélu. Et Lou Reed est un produit de cette période-là. Et son esthétique, c'est le free jazz, qui est à ce moment-là le truc qui se passe dans le jazz. Et Lou Reed, petit juif de New York, aurait rêvé en fait de faire du jazz. Donc il écoute Don Cherry, grand trompettiste de free jazz. Il écoute aussi du rock'n'roll. Il écoute Ornette Coleman, qui est le fondateur du free jazz avec Albert Ayler. Il découvre tout ça, il va voir ces artistes-là et les grands du jazz dans les clubs de Harlem. Il se passionne pour la culture noire. Et quand il se retrouve à l'université au début des années 60, à Syracuse, à côté de New York, il fonde un journal qui s'appelle Lonely Woman Quarterly. Lonely Woman, c'est une célèbre composition d'Ornette Coleman. Et il publie des textes très bizarres, des choses très provocantes. Son canard va être interdit. Très vite, les émissions de radio qu'il fait dans l'université vont être interdites parce qu'il se moque du prof de football américain, je crois, je ne sais plus quoi. Enfin, il est très radical comme ça. Il est un poète de la Beat Generation. Et il se projette comme ça. Et son ambition, et c'est ça la clé de son œuvre à mon avis, c'est de prendre la littérature et de la mettre en scène avec l'Europe. Ce que personne n'avait fait jusque-là. Quand cette période universitaire s'achève et qu'il se retrouve à New York complètement perdu et livré à lui-même, bon, ben, il essaye de trouver du boulot. Il a plein de problèmes, il prend beaucoup de drogue, il était complètement mal, quoi. Et donc il trouve un boulot un jour chez Pickwick, qui était une boîte qui faisait des compiles pour supermarchés, qui suivait les mouvements à la mode. Alors là, c'était le moment des hipsters, beatniks, les hippies à San Francisco. Et on lui dit, bah, il faut écrire des chansons dans tous ces styles. Et c'est à ce moment-là, quand le premier disque sort, on lui dit, tu vas monter un groupe de rock, donc, et tu vas chanter ces chansons promotionnelles dans les supermarchés à New York pour faire la promo de nos compiles. Et donc, il faut qu'il trouve des musiciens. Et il y avait un groupe qui s'appelait The Theatre of Eternal Music et auquel participait un jeune anard qui jouait des tablas, John Kell qui jouait de l'alto, Lamonte Young jouait du saxophone, et ils faisaient des musiques du type on joue toujours la même note sans arrêt, on fait qu'une note et on fait ça pendant 14 heures sans arrêter, quoi, sous amphétamine. Et quand John Kell entend parler d'un job pour jouer du rock, Il se dit, c'est marrant, on va gagner un peu de thunes, on va faire ça. Et il se retrouve à monter un groupe avec Lou Reed pour jouer du rock dans les supermarchés, ce qui était pour John Cale. Bon, il y avait deux accords. John Cale, c'était un musicien classique. Donc c'était facile, il fallait jouer de quoi ? De la basse, il n'avait jamais touché une basse de sa vie, il apprend la basse en 10 minutes, et les voilà partis à faire ça.
Okay, I want everybody to settle down now, we got some new we're gonna show you, man. So I knock you dead when we come upside your head, you get ready? You said he'll go, yeah, all right, come on, come on, come on, let's go. Yeah. All right, everybody get down on your face, man. Get ready, yeah. Okay, come on. Hey, put your hands up, all tight your knees, that busy ball. Yeah, 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 yeah. Take this moment, you step on your head.
Et puis un jour, Laurie lui dit, voilà, en fait, ça, c'est mon boulot. Et ce que je veux véritablement faire, c'est chanter mes propres chansons. Et John Cale prenait pas du tout Lou Reed au sérieux. Pour lui, c'était qu'un opportuniste qui faisait de la pop musique pour supermarché et qui avait aucun intérêt, quoi. Mais quand Lou Reed lui sort les paroles de Heroine, I'm Waiting for the Man et quelques autres titres comme ça, tout le côté Destroy qu'il y avait en Lou Reed, John Cale trouvait ça super. Et ils ont formé le Velvet Underground ensemble avec un copain d'université de Lou Reed, qui était guitariste de rock, Sterling Morrison. Et la sœur d'un copain d'université, Mo Tucker, qui jouait de la batterie dans le style de Bo Diddley, c'est-à-dire debout, elle jouait des tambours debout, quoi. Ce qui était jamais vu, on n'avait jamais vu une fille à la batterie, de toute façon les filles jouaient pas dans les groupes de rock, et encore moins de la batterie. Donc voilà, le Velvet Underground est né comme ça, par une volonté d'être une forme d'expression radicale. Et quand Barbara Rubin, qui était une cinéaste d'avant-garde qui tournait autour de la cinémathèque de Jonas Mikas, en 1965, tombe par hasard sur le Velvet Underground dans un bistrot dont ils se sont fait virer juste après, justement à cause du contenu de leur chanson, puisqu'on leur demandait de faire du rock pour faire danser les gens. Barbara Rubin découvre ces mecs-là et ramène tout de suite Andy Warhol. Et Andy Warhol vient au Café Bizarre écouter le Velvet Underground. Il vient avec ses copains PD allumés, PD cuir, avec Gérard Marlanga qui avait un fouet, qui se met à taper du fouet par terre. Et Warhol pense que c'est pas commercial, mais qu'il va faire du Velvet Underground le penchant musique de son œuvre multimédia, puisqu'il est en train de monter en ce moment-là un spectacle multimédia où il va y avoir à la fois des projections de diapositives, des films d'avant-garde où on voit des homos en action, donc un truc super adulte, et il veut une chanteuse, une diva, ça devient Nico, quoi, qui est une chanteuse allemande extrêmement belle, mannequin. Et Lou Reed, comme Andy Warhol, comprennent qu'ils font la même chose, un truc radical, issu de la Beat Generation des années 50, influencé par le free jazz, mais aussi le rock. Et Lou Reed est le chanteur de rock le plus radical des États-Unis à ce moment-là. Et Warhol finance leur premier album, le célèbre album à la banane.
I have to learn that.
Décalage total dès les débuts de ce groupe. C'est-à-dire que, bon, si vous considérez que le critère, c'est le succès...
Mishka Assayas.
Eh bien, ce groupe avait tout faux dès le début. D'abord, il a été jugé par les connaisseurs, les gens qui écrivaient des critiques dans les journaux, tout ça, comme une sorte de caprice d'Andy Warhol. C'est-à-dire que Andy Warhol entraînait dans son sillage quantité de performeurs plus excentriques les uns que les autres, et il y avait un côté ménagerie un peu hein, autour de lui à la Factory. Donc beaucoup de gens considéraient que c'était un caprice d'homme riche un peu, le Velvet Underground, et qu'il avait ramassé un peu dans le caniveau une bande de cinglés, et que c'était rigolo quoi de faire ça créait un choc.
Il y avait quelque chose qui était gênant. Et puis, imaginez que le premier album de Louis Underground paraît en pleine révolution hippie, où justement l'idéal à ce moment-là, c'est une musique qui prône l'amour entre les hommes, la recherche du bonheur, le refus de tout ce qui vous empêche d'avoir des ailes dans la vie. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais là arrive cette bande de rats d'égout qui se met à parler de trucs sordides, de type qui attend sa dose, de travestis qui se disent des horreurs, enfin je sais pas quoi, enfin de sadomasochisme, enfin c'est vraiment pas du tout dans l'air du temps. Et d'ailleurs il y a un critique qui écrit, ça fait très plaisir à Lou Reed qui avait son côté sardonique, qui écrit le Velvet Underground, je sais pas, fait pousser les fleurs du mal, il faut vite les éradiquer, quoi. On sent que dans ces chansons, il y a un côté maladif, quoi, malsain, même quand c'est apparemment lisse et paisible, on sent qu'il y a une sorte de maladie qui ronge le groupe. Et alors, il y a bien sûr Héroïne, qui est une sorte de bourdon, comme ça, crescendo, crescendo. Ça, c'est vraiment à la porte de John Cale. Il y a Venus in First, là aussi avec ce violon dissonant, faux, atonal, enfin, quelque chose de très dérangeant. Donc, c'est pas un disque de rock, pour moi. C'est un disque qui est presque une installation d'art contemporain, qui utilise des fragments de langage musical pris à diverses sources populaires et savantes, et qui les assemble un peu pour voir ce que ça va donner. Et c'est quelque chose de totalement improbable, ce disque. Enfin, c'est très difficile de définir le genre de musique qu'ils font, par exemple. Parce qu'il y a de l'improvisation, il y a des trucs purement... c'est du bruit, enfin, il y a quelque chose de la musique concrète aussi dans ce disque. Donc, c'est un disque, je pense, qui était absolument insupportable pour les gens qui voulaient juste passer un bon moment en écoutant de la musique sympa. Ça, c'est pas possible. Et je pense que c'était quelque chose qui abordait des thèmes trop sordides pour être donné en exemple. C'est-à-dire que c'était quand même l'expression de gens qui étaient mal dans leur peau. Et être mal dans sa peau à cette époque-là, c'était presque un crime, si vous voulez. C'est qu'il fallait vouloir faire la révolution, penser qu'un monde meilleur allait advenir. Et d'un coup, des mecs arrivent et disent la vérité du monde, c'est la haine. Je peux vous dire que peu de gens étaient disposés à l'entendre. Lou Reed, c'est pas la fuite, c'est ils vous prennent par la tête, ils vous tirent les cheveux, ils disent « regarde ça ».
Cours, cours, cours. Marie Lado dit à Oncle Dave, j'ai vendu mon âme, il faut me sauver. Cours, 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 la mort gitane et toi, je vous dirai quoi faire. Margarita la folle, je devais lui trouver un plan. Elle n'était pas bien, elle était en manque. Elle partit vendre son âme. Elle ne plaignait pas. Elle ne savait pas ce qu'elle pourrait acheter. Sarah la nausée avait le nez plein de poudre et de grosses bottes à clous. Quand elle a viré au bleu, tous les anges ont hurlé.
Run, 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 take a dagger too. Run, 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 chips are dead than you. Tell what to do.
Cours, 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 la mort gitane et toi, je vous dirai quoi faire.
Donc on est en 66, concert, radicalité, danseuse, lumière psychédélique. On n'appelait pas ça encore psychédélique en 66, enfin en tout cas pas à New York, mais c'était une innovation, et ils débarquent en Californie, où ils vont enregistrer d'ailleurs leur premier album financé par Andy Warhol, et ils se retrouvent à Los Angeles, dans une espèce d'hôtel manoir pour touristes, avec toute la clique, Andy Warhol, Exploding Plastic Inevitable, avec The Velvet Underground, et les gens les détestent. Eux, ils étaient dans le truc hippie, donc tout le monde s'aime, amour libre, etc., ça commençait à arriver. Mais ils n'aimaient pas les New-Yorkais. En Californie, on déteste les New-Yorkais prétentieux, arrogants. Lou Reed était le New-Yorkais le plus prétentieux et le plus arrogant du monde. Ils détestaient les homos, ils détestaient tout ce que le Velvet Underground représentait. Et c'est dans ce contexte-là qu'il débarque dans un club où tout se passait à ce moment-là, Los Angeles, The Trip. Et comme Warhol avait beaucoup de publicité, toute la scène de Los Angeles, branchée de l'époque, débarque. Les Byrds, les futurs Crosby, Stills, Nash & Young, donc, Stephen Stills, et les Doors. Et Lou Reed monte sur scène et commence à balancer ses chansons sur le sadomasochisme, l'héroïne, les homos, l'ultra-violence. Il jouait Sister Ray à l'époque déjà, qui met en scène une orgie de travestis, héroïnomanes, qui se shootent ensemble. Et il y a une descente de police. Et ils ont... Enfin, c'était ça les paroles de Sister Ray. Ça durera une demi-heure. Et Jim Morrison est là. À l'évidence, il est frappé par ça, puisque les Doors commencent à exister à ce moment-là. Et il pique plein d'idées à Lou Reed. Hein. Ça a été une grande, grande influence sur Jim Morrison, c'est évident. Donc le Velvet Underground a cet impact énorme sur la scène de Los Angeles. Et le shérif est là et dit « c'est pas possible ce truc de droguer ». Il ferme le Trip, qui est interdit, alors qu'ils existent depuis un mois. Le Velvet Underground est interdit de jouer, ce qui est un événement dans la scène de Los Angeles. Et du coup, il trouve un engagement à San Francisco, au Fillmore West, où ils sont détestés encore plus, parce que là-bas, c'est le mouvement hippie qui commence et tout. Et ils vont jouer au Fillmore West, où ça se passe très très mal avec Bill Graham, qui était le propriétaire du Fillmore. Il y a une cymbale qui vole, qui en blesse un, il s'engueule avec Bill Graham. Il n'y a pas un mot sur Lou Reed dans l'autobiographie de Bill Graham, qui a quand même accueilli le Velvet Underground au Fillmore, un groupe très important. Il n'en parle même pas, tellement ils se détestaient. Donc ils se font virer du Fillmore. Et Bill Graham leur pique le mec qui faisait les lumières du groupe, qui reste bosser à San Francisco pour installer les lumières qui contribueront à la célébrité du Fillmore, parce qu'il y a les fameuses projections psychédéliques qui étaient un truc qui venait du spectacle de Warhol et du Velvet Underground. Voilà, donc l'impact du Velvet Underground sur la côte ouest est incroyable. Et en plus, ils enregistrent leur album à la banane à Los Angeles, à part 2-3 titres qui ont été faits à New York, qui étaient en fait des maquettes avant et qui sont les moins bien enregistrés.
Now Rosie in the crayon, get busy waiting for her booster. She's just back from Carolina. She says she's bound to beat a sailor.
Massacrez vos fils. Tous tes psychiatres à deux balles te passent aux électrochocs. Ils ont dit qu'ils te laisseraient à la maison avec papa et maman au lieu de l'hôpital psychiatrique. Mais chaque fois que tu voulais lire un livre, tu oubliais où t'en étais. Donc, tu ne pouvais même pas lire.
I'm searching for my mainline. I said I couldn't hit it sideways.
Maman m'a annoncé au téléphone qu'elle ne savait pas quoi faire de papa. Il a pris une hache et a cassé la table. T'es pas content d'être marié?
Lou Reed a connu l'électrochoc dans les années 50 et il les a eus à l'époque de l'adolescence.
Florence de Merdieu.
Ça a été fait en traitement ambulatoire. Ce qui est assez important, parce que je crois que sa famille lui avait fait remarquer qu'il ne l'avait pas fait interner, mais il était traité donc chez lui. Et après coup, il a dû en ressentir quelque chose d'autant plus violent que justement ça s'était fait dans le milieu familial. Parce qu'il faut voir le fameux morceau qu'il a sorti après, « Kill your sons », qui dit bien ce que ça veut dire, hein, c'est la famille bon, qui tue ses enfants. Et il a ressenti ça comme un meurtre, exactement d'ailleurs comme Artaud, à son époque, l'avait ressenti comme un viol, comme un meurtre. Et effectivement, il faut savoir qu'un électrochoc, donc c'est un choc électrique qui est suivi d'un coma. Donc il y a bel et bien une sorte d'expérience de la mort, coma qui doit être très bref et qui est suivi bon, de différentes phases avant le système du réveil. Lori, donc, on comprend qu'il a été très violemment choqué par ces électrochocs qu'il a eu à une période, l'adolescence, et pour des motifs qui ne sont pas très clairs, pour des motifs qui sont de toute manière un problème de redressement. Il fallait redresser son comportement l'empêcher de dévier. Donc il entre dans une vie d'adolescent et d'adulte dans lequel bon, il est un paria, il est un réprouvé, la société ne l'accepte pas tel qu'il est, elle veut le redresser et c'est sous la forme d'une grande violence que ça s'opère. Hein, 24 électrochocs, c'est suffisant pour avoir effectivement quelque chose de très violent, une espèce de déconstruction.
Toutes ces drogues, comprenez, c'était vraiment fun. Mais quand tu te shootes à la thorazine après du freebase, tu suffoques comme un con.
Les médecins parlaient de remise à l'état zéro, de maisons détruites, et puis qu'on reconstruit. Et il y a dans le post-électrochoc, hein, dans les mois qui suivent, et probablement aussi dans les années qui suivent, il y a des troubles du langage et de la mémoire. C'est très important pour quelqu'un qui, comme Lou Reed, justement, a manipulé lui aussi la langue, les poèmes, parce qu'il a écrit de très beaux textes pour ses chansons. Et aussi, il y a une déconstruction. Et ça a joué aussi un rôle très important, par exemple, chez Artaud, dans le cas de la déconstruction de la langue. Et il y a aussi un élément très important qui se retrouve, alors on pourrait dire, dans toute une forme de l'underground, de l'avant-garde, mais peut-être plus violent chez Lou Reed, et bon, bien évidemment aussi chez Artaud. Ça lève les censures. L'électrochoc casse les censures, le surmoi. Donc il y a une crudité très violente, il y a une violence des instincts qui revient. Il y a cette volonté transgressive qu'on trouve dans toute la Factory et qu'on trouve évidemment chez Artaud. Donc on comprend que ça soit revenu ensuite par l'intermédiaire plus tard de la musique. Donc cette idée que le Lou Reed brancherait un corps qui lui-même est électrique et puis a été électrifié sur une source électrique pour à nouveau créer une musique.
Vous ne savez pas? Ils vont massacrer vos fils jusqu'à ce qu'ils se tirent loin, 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 loin. Loin, loin.
On to the psychiatrist, the video electroshock. They say they let you live at home with mom and dad instead of mental hospitals. But every time you tried to read a book, you couldn't get to page 17. Cause you forgot where you were, so you couldn't even read. Don't you know they're gonna kill your sons? Don't you know they're gonna kill your sons? They're gonna kill.
Fin 1970, la fête est finie. Le Velvet Underground, emmené par un Lou Reed plus à la dérive que jamais, publie un quatrième album, Loaded. L'accueil est certes moins glacial que pour les précédents, mais le groupe implose. Nico et John Cale avaient déjà été débarqués, c'est au tour de Lou Reed de claquer la porte de son propre groupe, auquel le manager Steve Katz impose une direction artistique vécue comme une trahison. Finalement, Lou Reed sort de l'enfer. Il retourne vivre chez ses parents à Long Island, travaille dans l'entreprise paternelle et lit ses poèmes à la St. Mark's Cathedral à New York. Il ignore qu'en Europe, une autre étoile noire du rock'n'roll s'apprête à conquérir le monde et envisage de l'embarquer avec ses Spiders from Mars. C'est David Bowie qui, en 1972, lui offrira, sur un plateau d'argent, son premier succès planétaire, l'album Transformer, avec son titre phare Walk on the White Side. Mick Rock.
La première fois que je l'ai rencontré, c'était avec Bowie. Ce devait être ce concert pour Sauver les baleines à Londres en 72. Ce concert précédait sa tournée pour Transformer. L'ambiance à Londres était très vivante. C'était certainement lié à cette révolution sexuelle. On croisait encore beaucoup de hippies, beaucoup de jeans et de cheveux longs dans les rues. J'avais rencontré Bowie en tournée. Il y avait à peine 400 personnes à ce moment-là devant la scène du Town Hall de Birmingham. C'était en mars 72. L'album Ziggy Stardust est sorti en juin et quelques jours plus tard, c'était des nuées de personnes qui se ruaient à l'Oxford Town Hall. Et là, dans un coin à l'écart, se tenaient Lou Reed et Iggy Pop. Aucun d'eux n'était connu à ce moment-là. Ils appartenaient à ce qu'on appelait l'underground et n'avaient guère vendu beaucoup d'albums. À ce moment-là, David traversait une période de créativité folle et avait décidé de les sortir de leur trou en les produisant lui-même au moment où ils venaient de se faire lâcher par leur label. C'était des losers, mais il y avait tout un petit culte autour de Lou et Iggy. Aussi, ce concert pour sauver les baleines en juillet était le premier concert de Lou hors des États-Unis. Et nous allions pouvoir le rencontrer. Il était très calme, courtois. Il me confia plus tard qu'il était très nerveux car il n'avait pas fait de scène depuis longtemps, n'avait jamais eu de succès et n'avait aucune idée de l'accueil que les Anglais lui réserveraient. Je me souviens de lui avoir ensuite montré les photos du concert. Je n'avais pas pensé une seconde dans le shootant qu'une de ces photos figurerait en pochette de cet album Transformer. Il ausculta méticuleusement la planche contact et s'arrêta en particulier sur celle-ci et me dit « Hmm, j'aime ce qui se dégage de celle-ci. » Donc oui, la pochette de Transformer et bien sûr tout l'album et Walk on the Wild Side ont d'une certaine manière défini son image pour toujours.
Quand vous voyez la pochette de Transformer, il est très maquillé, il a une espèce de visage de Pierrot, avec une sorte de cirage blanc, du charbon autour des yeux, là, comme ça. Et il ressemble, en fait, à une sorte de parodie de Mark Bolan de T-Rex, pré-Alice Cooper, un peu, enfin. Et donc, certains ont l'impression qu'il se prostitue pour devenir une espèce de rockstar glam rock éphémère, quoi. Et que Bowie et le manager de Bowie veulent absolument le vendre comme un produit. Et que lui, qui quelques mois avant était là, habillé suivant une sorte de non-mode qui était celle des étudiants de l'époque, avec sa tignasse, son caban, son pull marin, enfin voilà, donc il était là un an et demi avant, il récitait ses poèmes à la St. Mark's Cathedral à New York, il était comme ça une sorte d'artiste extrêmement sérieux, avec cette image d'avant-garde, etc., qui se commettent là-dedans. Donc, ça paraît bête hein, aujourd'hui, mais voilà, certains ressentaient ça. Et le fait, en plus, alors qu'il y a eu un tube, Walk on the Wild Side, alors, vraiment, c'était facile, c'était commercial, comme on disait. Voilà, bon, c'était l'époque. Hein. Et je pense qu'à sa façon, Lou Reed a souffert de ça. Parce que beaucoup de critiques ont considéré qu'il était une sorte de clown supplémentaire dans le cirque de Bowie. Et je pense que là, il a été mortifié, parce qu'il dit, ben enfin, ce type me vole, voilà, il fait Rock'n'Roll Suicide, qui est une sorte de parodie de ce que j'ai fait, qui est un pompage total, il se revendique de moi, il me fait venir, et puis, bon, effectivement, grâce à lui, je suis RCA, je fais un album, enfin, c'est Mick Ronson qui a fait Transformer, c'est Mick Ronson qui est vraiment le musicien arrangeur, qui est le génie du truc. Bon, d'accord, il me donne toute son armada, là, mais enfin, à l'arrivée, on me présente comme une espèce de produit dérivé, parce que c'était ça. Hi, Bruce.
Springsteen is all right, by the way.
They're shooting you up with pills. They said that it was good for you, that it would cure your ills. I don't care just where it's at. I'm just like an alley cat. And when you're filled up to hear with hate, gotta get it straight. Build up to heal with hate. Beat up black and blue and get it straight. Do-do, do-do, do-do. When you're looking through the eyes of heat, all your two-bit friends.
Donc il faut un album qui le rachète.
Voilà, alors là, Burley, en effet, c'est un peu, ah, Lou Reed, finalement, redevient beaucoup plus exigeant, Lou Reed va de l'avant. Ça devient un truc très littéraire, une sorte de pièce de théâtre musical, comme il disait, un film pour l'oreille, etc. Bon. Et moi, je dois vous avouer qu'à l'époque, j'avais 13 ou 14 ans, franchement, ça me paraissait trop compliqué, quoi. Enfin, j'étais trop jeune. Maintenant, rétrospectivement, je réécoute, je me dis, mais c'est totalement génial, enfin, c'est...
Qu'est-ce qu'il y a de génial?
Je sais pas la souffrance qui sort de ce disque, je sais pas comment dire les cris, la façon dont il semble se confesser quand il chante, quand il met en scène ce couple qui se déchire, les bagarres, le suicide, enfin, cette espèce de douleur qui transparaît dans ce disque. Moi, c'est ça que je trouve que qui est... Enfin, la profondeur spirituelle, enfin, c'est presque lire un roman russe, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui est existentiel, qui est très rare dans le rock. Enfin, qui a fait ça avant lui? Moi, je vois pas. Parce que, bon, il le met en scène, en effet, comme une pièce de théâtre sans les images. Mais d'ailleurs, c'est pas un hasard si quelques dizaines d'années plus tard, ça a été représenté, parce que c'était très théâtral. En même temps, c'était un peu dans l'air du temps. Il y avait des opéras rock, il y avait des tentatives d'œuvres globales, etc. Mais ça restait un peu, vous prenez Tommy, c'est du mélange pop, rock, musique baroque, musical, il y a quelque chose de très joyeux, et enfin, même si les thèmes sont existentiels, etc., il y a quelque chose quand même qui est très divertissant dans Tommy. Bon, Berlin n'est pas aimable. C'est pas aimable du tout.
Oh Jim, how could you treat me this way? Hey, 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 how'd you treat me this way? Oh, Jim, how could you treat me this way? Hey, hey, how'd you treat me this way? You know you broke my heart.
C'est ça qui est le plus impressionnant, parce que le rock, vous savez, il y avait tout un courant revêche, si vous voulez, pas sympathique du tout, dans l'après-punk, dont une des matrices peut être clairement Berlin. Vous savez, vous prenez des groupes comme, je sais pas, les Virgin Prunes, même jusqu'à Marilyn Manson, enfin, tout ce côté grinçant, méchant, sardonique, cette volonté de mettre en avant les choses les plus horribles, etc., morbide, Lou Reed a été le premier à... Ben parce qu'il savait ce qu'il faisait, il était très sûr de lui, c'est-à-dire que vraiment, grâce à son prof, Delmore Schwartz, il avait vraiment lu William Burroughs, il avait découvert Selby, il avait dit, je vais faire ça dans la musique, je vais être le premier à faire ça dans la musique.
When you're looking through the eyes of hate, ooh, when you're looking through the eyes of hate.
Le grand choc, je crois que c'est l'échec de Berlin. Le fait qu'il ait eu un tube avec Walk on the Wild Side, qui est vraiment un truc où il est allé à reculons, où il voulait pas le faire, enfin, on l'a convaincu. En plus, il y a eu un scandale parce que ça a été censuré, etc. Donc, il s'est dit, bah, si c'est ça, faire un tube, ça se fait emmerder, et faire, etc. Bon, donc, au moins, j'ai eu ça. Maintenant, j'ai le droit de faire ce que je veux. Il fait Berlin et boum, c'est vraiment... on prend ça de haut en disant, mais quel ennui, qui a envie d'écouter ça, etc. Et il n'y a pas de tube, etc. Il a été mortifié. mortifié. Et je pense que tout le parcours d'autodestruction est en grande partie lié au fait, bon alors, si je fais ce que je peux faire de mieux et que ça marche pas, mais qu'est-ce qui me reste à faire? Qu'est-ce que je peux faire pour survivre?
Quand tu regardes avec les yeux de la haine tes soi-disant amis, ils te demandaient ton autographe. Ils t'envoyaient sur scène. Ils croyaient que ce serait une bonne blague, mais je m'en fous d'être dans le coup. Parce que, chérie, je suis rien qu'un chat de gouttière. Et quand tu débordes de haine à ce point, « Oh Jim, comment as-tu pu me traiter comme ça ? Hé hé, comment as-tu pu me traiter comme ça ? Tu sais que tu m'as brisé le cœur depuis que tu t'es tiré. Tu disais que tu nous aimais, mais oh 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 Jim, comment as-tu pu me traiter comme ça ? Tu sais, tu m'as brisé le cœur depuis que tu t'es tiré. Quand tu regardes avec les yeux de la haine, oh, 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 oh. Quand tu regardes avec les yeux de la haine, oh, 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 oh. Quand tu regardes avec les yeux de la haine, oh, 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 oh.
You could see with Lou Reed, there was no way he was ever going to play the game by any other rules than his own.
Ce qui était très clair avec Lou Reed, c'est qu'il ne jouerait jamais le jeu autrement que selon ses propres règles.
You know, he has Transformer.
Il publie Transformer et il obtient son premier succès. Et qu'est-ce qu'il sort aussitôt après ?
Berlin. But it's because he's not playing anybody's game.
Il ne joue pas d'autres jeux que le sien.
That's why I think he really stands as a kind of.
C'est pourquoi je pense Lou Reed est un exemple rare de vie artistique. C'est toujours selon ses conditions. Il ne transige pas. Et si quelqu'un venait lui dire que ce qu'il était en train de faire allait devenir un tube, je crois qu'il s'en fichait. Il y a quelque chose de terriblement stimulant là-dedans. Et je crois qu'il plaçait ses propres exigences très haut, conformément à son ambition. J'ai d'abord entendu son travail en solo, Transformer et Berlin. Puis je suis remonté à rebours jusqu'au Velvet Underground, qui était pour tout le monde, sans conteste, l'épiphanie en provenance de Manhattan. Il fut une épiphanie pour moi. J'ai réalisé par la suite que Lou Reed était probablement le guitariste que j'estimais le plus. J'avais en effet toujours cru que Sterling Morrison jouait toutes les parties de guitare, jusqu'à ce que j'acquière ces fameux enregistrements où la prise de son se fait depuis l'ampli de Lou Reed. J'ai découvert que c'était lui, cette guitare malsaine que j'aimais tant. Ça venait du free jazz qu'il chérissait, mais qu'il gardait contenu en quelque sorte dans les fondamentaux du rock and roll. Il y avait un chaos contenu qui est vraiment, vraiment fabuleux.
De toute façon, il expérimente tout le temps. Dans Street Hustle, dans les années 70, il a été le premier à utiliser un système binaural. Enfin, il est obsédé par le son, hein, Lou Reed. Il passe son temps. Moi, chaque fois que je le voyais, il me parlait de sa guitare. Je m'en fous de sa guitare, mais c'était toujours la nouvelle pédale de guitare, le nouveau truc, le nouveau. Il avait un mec sur scène en 79 qui jouait de la guitare synthétiseur. C'était le premier à mettre ça sur scène. Enfin, il a toujours été comme ça, depuis le début. Il a toujours été à la pointe de la technique, des techniques de réalisation artistique, de son, de studio, de tout. Il était. Son côté punk et parrain du punk, complètement, encore une fois, en ambivalence avec ce côté technicien, quoi. Et ses disques ont toujours des sons un peu bizarres, comme ça. Il y a toujours quelque chose de particulier, y compris dans les années 2000. Il ne voulait pas revenir au matériel vintage. C'était pas du tout son style, au contraire, il voulait aller vers ce qu'il y avait de nouveau. Et alors, donc il faisait faire des guitares spéciales pour lui. Il aimait bien les manches de Telecaster, par exemple. Donc il avait 182 manches de Telecaster. Il faut voir les photos de lui. Quand ils ont reformé le Velvet Underground en 93, il avait un pédalier. C'était un demi-cercle comme ça, d'1 mètre de large, avec 800 pédales dessus.
Alors, il s'en mêlait toujours les crayons, mais il fallait que ça marche bien. Donc, il y avait un mec qui était payé pour faire que ça, pour s'occuper de ses guitares tout le temps, quoi.
Dans les années 80, après Blue Mask, c'était l'album, justement, New Sensations. Il introduit les boîtes à rythme.
Ouais, Lou Reed et les boîtes à rythme, c'était inattendu. Mais bon, c'est l'époque qui était comme ça. Il n'était pas question qu'il passe à côté de l'époque. Lou Reed a su l'utiliser mieux que les autres. Et ça, c'est sûr. Maintenant, le disque d'avant, Blue Mask, c'était le contraire. C'était des guitares avec des arpèges et des guitares électriques comme ça. Alors là, il jouait sur des guitares en plexiglas, comme les Dan Armstrong en plexiglas, qui était un truc spécial que Keith Richards avait très bien utilisé, qu'il a voulu inventer un nouveau truc, complètement différent. Ce mec-là était en fait un avant-gardiste. Il était un poète et un avant-gardiste, et il voulait mélanger différentes formes d'art, comme Warhol l'avait fait, puisqu'il est de la même génération, il est du même moule, enfin Warhol était plus âgé que lui. Mais c'était ce qui se faisait à la Factory, et lui-même avait déjà conçu ça en sa tête avant, et c'est pour ça qu'ils se sont bien entendus avec Warhol, c'est parce qu'ils faisaient la même chose.
Il y a un truc qui est bizarre, c'est que ce disque, Metal Machine Music, a pratiquement pas été mis en vente. Il a été retiré du marché au bout de 3 semaines. Et je crois qu'à l'origine, Lou Reed voulait que ça sorte sous l'étiquette de musique classique de RCA. Et eux, ils se sont dit, bon, c'est invendable, mais enfin quand même... Si on met le nom de Lou Reed et qu'on met sa tête sur la pochette et que même un peu, je sais plus, enfin un peu masqué ou je sais plus, enfin avec des couleurs, bon, et que on met par l'auteur de Walk on the Wild Side, où j'avais grandi, je sais pas ce qu'ils avaient fait, mais ils avaient essayé. Peut-être qu'on va avoir une chance quand même d'un peu d'abuser l'homme, mais ça a été une histoire démente parce qu'il y avait des gens, je pense, qui revenaient à la Fnac foudrage en disant, mais qu'est-ce que vous m'avez vendu? Vous m'avez dit que c'était un album de Lou Reed, c'est quoi cette merde? Et il revenait, il protestait. Donc, je pense qu'il y a un côté farceur aussi, c'est-à-dire qu'il s'est dit, mais jusqu'où ça peut aller? RCA, ils sont là, on veut des tubes, on veut des tubes, on veut un autre Walk on the Wild Side, etc. Et donc, par rage, il a voulu voir jusqu'où ça irait, parce qu'il voulait sortir de ce contrat avec RCA, parce qu'il leur a donné ça, en leur disant, maintenant, vendez ça, et puis après tout, dites que c'est Lou Reed, moi j'en ai rien à foutre, enfin... Il y a un truc d'esprit de contradiction, et puis toujours de recherche de confrontation.
Je n'étais pas séduit par Metal Machine Music. J'étais juste absolument intrigué par les notes de livret. Je ne comprenais pas vraiment et je ne pouvais pas comprendre de quoi il s'agissait. Maintenant, quand je l'écoute, c'est si musical, c'est si beau. La première fois que je l'ai écouté, je vivais dans une ville de province en Australie. Les disques arrivaient au compte-gouttes. Et pour des choses comme ça, il y avait toujours un délai assez long. Je tournais autour de ce disque dans les bacs des disquaires de ma petite ville. J'y allais, je regardais les notes de livret, je les lisais, et je me souviens d'avoir pensé que ce disque devait renfermer une sorte de mystère, quelque chose d'étrange. J'en ai toujours une copie aujourd'hui, encore emballée, dans mon studio à la maison. Elle est là avec son plastique, comme une sorte de rappel de cette promesse. J'ai vu bien plus tard Lou Reed jouer Metal Machine Music en concert à Londres. Et le concert était si vital, je veux dire que l'on pouvait sentir ce qu'il y avait de vital là-dedans. À la toute fin du concert, Lou Reed s'était avancé jusqu'au bord de la scène, ses deux poings levés avec cet air de triomphe et ce sourire sur son visage. C'était si émouvant, si juste, parce qu'il avait raison.
This is called My Old Man. When I was a young boy in Brooklyn going to public school, during recess in the concrete playground, they lined us up by twos in alphabetical order. Reagan, Reed, Russo. I still remember the names, and stickball and stoopball were the only games that we played. And I wanted to be like my old man. I wanted to be just like, I want to act like my old man. Then, like everyone else, I started to grow, and I didn't want to be like my father anymore. I was sick of his bullying and having to hide under a desk on the floor. When he beat my mother, it made me so mad I could choke. And I didn't want to be like my old man. I didn't want to look like him.
Ironie du destin, la carrière de Lou Reed s'arrête sur un album qui est aussi honni, méprisé, rejeté, refusé que l'aura été le premier album du Velvet, si bien qu'il y a une espèce de boucle là, très curieuse. C'est l'album Loulou en 2012, qui est un hommage évidemment à toute une tradition littéraire, enfin...
Oui, on retrouve un peu Berline, parce que c'est l'opéra de Berg, la pièce de Wedekind, bon, mais ça, ce sont des choses dont je crois Lou Reed était très familier. Alors, en effet, c'est vraiment le cas d'un disque qui, finalement, a été détesté par les amateurs de métal et détesté par les amateurs de Lou Reed, mais je trouve qu'il y a une puissance incroyable dans ce disque. Il y a dans sa diction une force... phénoménal. Et puis je pense que ce qui a intéressé Lou Reed, c'est que fondamentalement, le groupe Metallica, c'est un groupe qui a toujours travaillé le son de la guitare. C'est presque de la sculpture sonore, quoi. Je pense que c'est ça qui a passionné Lou Reed. Comment la voix se mélange à ça. Je pense qu'ils ont eu ce langage commun-là sur la fabrication de l'objet sonore. Finalement, mais c'est très cohérent toujours ce qu'a fait Lou Reed. C'est très très cohérent. Et puis ce que je trouve vraiment toujours captivant dans son parcours, c'est qu'il a toujours fait un disque contre le précédent. C'est dès le départ, quoi. Dès qu'il aurait pu faire Transformer numéro 2, ça aurait été parfait, tout le monde aurait été content, la maison de disques, son comptable, enfin. Et le fait qu'il ait voulu se conformer à cette exigence artistique qui correspondait à ce en quoi il croyait quand il était jeune homme, quand il était étudiant, cette idée de ne jamais trahir le message de Delmore Schwartz, enfin, il y a une citation qui m'avait frappé, « Si un jour tu deviens un vendu, moi je te louperai pas ». Et je pense qu'il a gardé ce truc-là dans sa tête. C'est-à-dire qu'un artiste ne doit écouter que la voix la plus exigeante qui est en lui-même et surtout ne pas être aliéné par les voix extérieures. Et ça, c'est important, je pense.
En renouant effectivement avec une certaine tradition littéraire, c'est Aitken et c'est Berg, évidemment, c'est un texte extrêmement cru.
Oui, mais ça, c'est tout à fait clair. C'est que là, au fond, il a un peu voulu payer sa dette. Et il y a ce côté grinçant, grimaçant, cruel qu'il y avait, dans la littérature de Weimar, enfin, les spectacles de Weimar, de l'époque de Weimar, ce truc de distanciation, de ricanement face à la cruauté, etc. Ça, c'est quelque chose... Enfin, je pense qu'il a voulu rendre hommage à ses racines, tout simplement, parce qu'il a compris que c'était ses racines. Il a compris parce qu'il est très européen, en fait, Laurie, profondément.
En rétrospective, qu'est-ce qui nous reste de Lou Reed? Qu'est-ce qui fait qu'il a cette importance dans l'histoire? C'est qu'il a voulu faire avec du rock, comme il me l'a dit à plusieurs reprises. Il a dit, mais c'était incroyable, moi je faisais jamais que mettre en musique des chansons dans le rock, qui était un truc pour ados, voilà, c'est la musique pour danser, et j'ai voulu mettre un truc adulte là-dedans. Mais il me disait, tout le monde faisait ça dans le théâtre. Depuis très longtemps, il y avait des choses extrêmement crues, extrêmement adultes, extrêmement avant-gardistes, dans la littérature, on a tout eu dans la littérature. Et tout à coup, à partir du moment où on met ça dans le rock, ça devient interdit, on me déteste, je suis le diable, alors que j'ai jamais fait que mettre ça dans une forme d'art différente. On avait tout ça dans l'art moderne, dans la peinture, dans tout ce que vous voulez, mais dès qu'on touchait au rock, c'était pas possible, c'était incompatible. Et sa force, ça a été de faire ça. Et le fait que ce soit des personnages qui discutent dans une chanson, ou que ce soit une autre personne que l'interprète qui s'exprime, comme on le fait dans une pièce de théâtre, ou dans une nouvelle, c'était une manière nouvelle d'écrire des chansons. Et ça, c'est très fort. Arriver à mettre dans la pop musique une approche qui est en fait une approche d'auteur dramatique, ça, c'est important.
ça a donné une nouvelle dimension à la musique populaire, ça a donné une nouvelle dimension au rock, et ça, c'est incomparable.
Why do you cheat on me? Why do I cheat on thee? Why do I cheat on me? Why do I cheat on me? I have a passionate heart.
Il vient de la littérature, ça c'est évident, quoi. Il vient de la poésie et de la littérature.
It can tear us apart. I have the loves of many men.
Quand Lou Reed a compris qu'il ne réussirait jamais au sein du Velvet Underground, quand il a compris que ce groupe ne le rendrait pas riche, il a tout arrêté et il a travaillé dans le cabinet comptable de son père. Ça a duré quelques temps. Et la seule existence artistique qui était la sienne pendant cette période a été d'écrire de la poésie. Donc, on oublie fondamentalement... Mais ça, c'est le problème aussi qu'on a en France, parenthèse, c'est que souvent, on ne s'intéresse pas aux paroles. Alors que, dans le cas de Lou Reed, même si on ne comprend pas tout, si on ne comprend pas de quoi il parle, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et je veux dire, lui n'ambitionnait que d'écrire des vers définitifs.
I always kind of saw him as like from the beginning as the Baudelaire of rock and roll.
Ce que je ressentais à propos de Lou, l'impression qu'il me faisait depuis le début, c'est d'être en quelque sorte le Baudelaire du rock and roll. Avec ce côté, comment dire, très fin de siècle, au sens où il avait en commun avec les romantiques anglais comme Byron ou Shelley, ou même les beatniks. Comment dire, ce sens de la décadence. Il y avait une aura de danger autour de Lou. Oui, même si, lorsque vous le connaissiez bien, vous vous rendiez compte que c'était une âme très douce.
Men of good fortune often cause empires to fall, while men of poor beginnings often can't do anything at all. The rich son waits for his father to die.
Merci à Mishka Assayas, Bruno Blum, Warren Ellis, Florence de Merdieu, Mick Rock. Lecture par Kate Moran, avec les voix de Raphaël Kraft et Pierre Villers. Prise de son Olivier Dupré et Bernard Laniel. Mixage Éric Boisset. Attaché de production Claire Poinsignon. C'était Une vie, une œuvre, Lou Reed, les syllabes du chaos. Un documentaire d'Alexandre Breton, réalisé par Céline Terce. Merci à Bob Wilson et Jim Reed.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, liens, réécoute, podcast et commentaires, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et la semaine prochaine, dans le cadre du Weekend Shakespeare, nous serons avec celui qui était le rival du grand maître et aussi sa face plus obscure, Christopher Marlowe.